Bien, mesdames et messieurs, après notre pause qui vous a permis d'observer que j'étais d'un arbitre qui ne connaissait pas la totalité de la règle du jeu, et maintenant ce problème est réglé, je donne donc cette fois pour de bon la parole à madame Jeanne-Marion.
Je vous remercie, vous m'entendez correctement? Ça va? Alors je souhaiterais commencer par remercier les organisatrices et organisateurs de ce colloque dont je trouve le programme et l'argumentaire passionnants. Alors je suis d'autant plus heureuse d'y prendre part que la question que nous avons été invités à affronter joue un rôle de plus en plus important dans ma recherche, même si ce que je vais vous présenter a un statut pour moi quasiment liminaire en fait, mais néanmoins ces considérations posent des problèmes sur lesquels je serais curieuse d'avoir votre sentiment. Donc je vous propose une... j'ai légèrement changé mon titre. L'institution ouverte sur la conception merleau-pontienne du social, puisque vous le verrez, en fait, il me semble que justement le problème, c'est plutôt un manque de normativité, donc je trouvais que mon titre initial, sur la conception merleau-pontienne de la normativité, était légèrement trompeur, mais ça va s'éclaircir. Donc, je vous propose une réflexion en trois temps. Premier temps, l'institution contre le doublé maléfique de l'idéalisme et de l'empirisme, une voie pour une autre pensée du sujet. Donc, je vais essayer de situer dans quel contexte philosophique général se situe la pensée merleau-pontienne de l'institution. Puis, j'essaierai de rendre compte de la grande extension, de la généralité du concept merleau-pontien d'institution, pour le meilleur et le pire, pour le dire de manière un peu caricaturale, évidemment. Donc, une continuité cruciale mais problématique. Et ça nous permettra peut-être de retrouver certains des motifs de l'exposé précédent. Et enfin, dernier temps de l'exposé, le plus problématique, le tourbillon de l'institution ouverte, une institution trop miraculeuse pour être honnête. Voilà. Donc, je commence. Comment intervient le concept d'institution dans la pensée de Maurice Merleau-Ponty? De quel autre concept se distingue-t-il? Auquel est-il lié? Pour le traitement, de quel problème est-il mis en œuvre par Merleau-Ponty? Alors, quelques mots de rappel tout d'abord, ou de tout simplement d'information, sur la démarche philosophique de Merleau-Ponty. Cela est bien connu désormais, le travail de Merleau-Ponty a été guidé depuis l'origine par le souci d'affronter un problème crucial, crucial pour lui, mais je pense crucial pour une bonne partie de la philosophie contemporaine et moderne probablement, qui le situe dans une lignée cartésienne très directe, celui de la relation de l'âme et du corps. Dans cette union où Descartes voyait un fait réel mais inconcevable, Merleau-Ponty découvre comme une exigence celle de penser le réel tel qu'il est et de forger pour cela les concepts nécessaires, quitte à revoir dans ce but toute notre conception de l'être. Cette intention, Merleau-Ponty l'exprime dès la première ligne de La structure du comportement, qui est sa première thèse, publiée en 1943. Il est né en 1908. Je ne vous l'ai pas mis, mais c'est très court. Notre but est de comprendre les rapports de la conscience et de la nature. C'est suffisamment clair, je pense. Alors, l'introduction et l'élaboration de plus en plus importante, du concept d'institution dans la pensée merleau-pontienne s'inscrit dans ce scénario cartésien, comme, pour reprendre les termes d'Emmanuel de Saint-Aubert, qui est un spécialiste de Merleau-Ponty, qui a consacré une série d'ouvrages très importants à l'étude de son itinéraire philosophique à partir de l'étude des manuscrits. Donc il parle donc d'un scénario cartésien, et il me semble que c'est dans ce scénario cartésien que l'on doit comprendre le concept merleau-pontien d'institution. En effet, Merleau-Ponty a commencé à réfléchir spécifiquement au concept d'institution au cours de la deuxième moitié des années 50, ce mouvement de concentration conceptuelle culminant lors de l'élaboration d'un cours sur, je cite, « l'institution dans l'histoire personnelle et publique » prononcé au Collège de France en 1954-1955. Nous sommes alors une petite dizaine d'années après la publication de sa thèse majeure, « La phénoménologie de la perception », qui a été publiée en 1945, 2 ans après la structure du comportement. On peut considérer que la phénoménologie de la perception a permis à Merleau-Ponty de formuler certaines de ses hypothèses théoriques et de ses thèses majeures, tout en faisant apparaître certaines de leurs faiblesses et de leurs insuffisances que les travaux suivants n'auront de cesse de pallier. C'est dans ce cadre, donc, que se comprend, selon moi, le sort important fait par Merleau-Ponty au concept d'institution, qui lui apparaît à cette époque comme un nœud fondamental de sa philosophie. De fait, le cours qu'il lui consacre est souvent considéré chez les Merleau-Ponciens, avec toutes les réserves que l'on peut émettre à l'égard de thèses historiques de ce genre, qui découpent des périodes, fixent des moments de bascule, etc. Néanmoins, ce cours est souvent considéré comme le premier pas clair de Merleau-Ponty en direction de la réforme ontologique, qui culmine, qui culmine dans les textes que l'on connaît sous le titre « Le visible et l'invisible ». Ainsi, il me semble que la perspective théorique de Merleau-Ponty sur le concept d'institution a l'intérêt pour nous, dans le cadre de ce colloque, de mettre en évidence ce qui peut rendre ce concept si précieux et les réalités qu'il décrit indispensables, et donc en un sens de proposer une forme de défense de l'institution contre les critiques qui peuvent être formulées à son encontre, mais aussi de souligner les présupposés et par là même les points d'attaque possibles de cette manière de défendre l'institution. Ainsi donc, Merleau-Ponty introduit son cours de 1954 en mettant clairement en contraste le concept d'institution avec le concept de constitution, et par là même avec une certaine conception qu'il nomme idéaliste du sujet. Du sujet cartésien, pas du sujet du thème. L'institution, pour Merleau-Ponty, est d'abord, pour le dire un peu brutalement, une machine de guerre contre l'idéalisme. Quelle est sa cible précise? C'est à la présenter qu'il consacre les premiers mots de son cours, signe du caractère éminemment critique, éminemment polémique même, de son usage de l'institution. Ce qu'il critique se décline en plusieurs motifs: un certain rapport à autrui, une certaine conception du temps, une certaine pensée de l'action, sont tous liés pour lui à une certaine représentation du sujet comme conscience. Donc je cite les premières lignes du cours publié que vous avez sur le PowerPoint. Évidemment, ce sont des notes de cours, hein, c'est donc, d'où le caractère parfois difficilement lisible du texte, mais je pense que le sens est néanmoins compréhensible. La vie personnelle, considérée comme vie d'une conscience, c'est-à-dire une présence au tout pour laquelle autrui est négation vide et l'action indifférente, ou du moins n'ayant de sens que pour moi, par signification close. Le passé n'existe pour cette conscience que comme conscience du passé, c'est-à-dire tableau dépassé, un mode de présence tout spectaculaire, le faire s'exerce en fonction d'une fin, c'est-à-dire d'un résultat représenté, et comme réalisation par le corps de gestes et paroles qui le procurent. Il est le fiat d'une signification. IP, c'est l'acronyme que j'utilise pour désigner le volume, l'institution et la passivité, puisque le cours sur l'institution a été publié avec le cours sur la passivité que Merleau-Ponty a donné la même année. Enfin, ça, d'ailleurs, c'est évidemment intéressant, mais bon, je passe là-dessus. Merleau-Ponty critique immédiatement cette conception, mais est-ce ainsi? Sommes-nous cette présence immédiate à tout devant laquelle les possibles sont tous égaux, tous impossibles? Toute cette analyse suppose une réduction préalable de notre vie à la pensée de vivre. Précisons-le rapidement, donc, cette critique, je vous l'ai dit, est l'une des figures de la dénonciation merleau-poncienne de l'idéalisme, qui est leitmotiv de sa philosophie, dénonciation qui est elle-même la sœur jumelle de la dénonciation de l'empirisme, qui est un travers symétrique issu de la même source cartésienne. Pour Merleau-Ponty, l'erreur consiste à chaque fois à rendre compte des phénomènes à partir de l'une des deux substances distinguées par Descartes, ce qui est conscience et ce qui est chose, au mépris de l'autre, rendant ainsi les phénomènes impensables. L'empirisme consiste à penser les phénomènes d'après les caractéristiques de la substance corporelle, et donc comme des choses essentiellement étendues, c'est-à-dire comme une multiplicité d'événements extérieurs les uns aux autres et liés par des rapports de causalité. Inversement, l'idéalisme ou l'intellectualisme, c'est quasiment synonyme chez lui, consiste à les penser à partir de la substance pensante, de la conscience, et donc à penser le monde comme le terme immanent de la connaissance. Évidemment, juste une remarque, il n'est pas nécessaire qu'une conception soit moniste pour que Merleau-Ponty la qualifie d'idéaliste ou d'empiriste. Ce qui désigne, par ces termes, c'est une certaine tendance à faire primer l'une des deux substances sur l'autre et à négliger les caractéristiques qui sont propres à l'autre substance ou des caractéristiques qui ne seraient réductibles à aucune des deux. Bon. Et donc, dans le cours sur l'institution, l'arme de Merleau-Ponty contre l'idéalisme est ce concept d'institution, dans une perspective bien particulière. En effet, à une conscience maîtresse d'elle-même, devant laquelle le monde s'étale comme un ensemble homogène de possibles, donc à un sujet constituant, selon son expression, il entend opposer un sujet institué et instituant, mais inséparablement. Ça, c'est son expression. sujet institué et instituant, mais inséparablement. L'idée est que le sujet, loin d'être une conscience souveraine, est essentiellement, je cite, « exposé à, soumis à ce qu'il appelle l'inertie, animé d'un projet non décisoire ». Ça, c'est le sujet institué, mais la description ne s'arrête pas là, car il ne s'agit pas, évidemment, pour Merleau-Ponty, de revenir à l'empirisme et au déterminisme. Le sujet est institué, mais aussi instituant. C'est le fait d'être exposé, je cite, « qui met en route une activité, un événement ». Donc, c'est la suite. Ce qui fait le prix pour Merleau-Ponty du concept d'institution est qu'il permet, selon lui, de penser ces deux aspects ensemble. Ce à quoi l'on est exposé est aussi ce qui fait que nous agissons. Et cela, non pas selon un geste de distanciation qui serait, in fine, doté d'une forme de liberté pure ou d'autonomie. Du style, je suis exposé à ceci, mais je fais cela librement, et en quelque manière, j'ai toujours la liberté de reconnaître telle ou telle exposition comme déterminante ou non. Avec le concept d'institution, Merleau-Ponty veut penser un sujet qui n'est pas pensable hors de ce qu'il institue comme tel, hors de ce qu'il institue comme sujet. Un sujet qui, en tant que sujet libre qui agit, est irréductiblement institué. C'est une manière aussi de sortir le sujet d'une forme d'abstraction, si vous voulez. Mais il en a été question d'ailleurs pendant la présentation de ce matin, par les organisatrices du colloque. Réciproquement, comme sujet, c'est le sujet en tant qu'il est institué qui dispose d'une forme d'autonomie, toujours située, ancrée dans une expérience, un monde qui est indissociablement culturel, social, historique, émotionnel, etc. Les formulations qui précèdent l'indiquent, je pense, cette idée d'exposition, d'inertie, etc. Sur ce thème, comme sur beaucoup de thèmes d'ailleurs, Merleau-Ponty est évidemment très marqué par le débat et le désaccord avec Sartre, qui a abouti l'année précédente à leur célèbre rupture, hein, qui a lieu en 1953, donc vraiment une année et demie avant la publication, la création du cours sur l'institution. Donc cette exigence à laquelle le concept d'institution correspond selon Merleau-Ponty se marque dans la définition qu'il en donne alors, définition qu'il reprend dans son résumé du cours, résumé qui a été rédigé à la fin de l'année, ce qui peut indiquer pour nous une forme de satisfaction de Merleau-Ponty à l'égard de sa formulation, qui n'est pas juste l'expression d'une inspiration du moment, mais voilà, qu'il reconnaît encore après une année de travail. Donc c'est la première citation. Donc, institution signifie établissement dans une expérience ou dans un appareil construit de dimension, au sens général, cartésien, système de référence, par rapport auquel toute une série d'autres expériences auront sens et feront une suite, une histoire. Cette définition le manifeste est en jeu, évidemment, un certain rapport au temps, où le passé ne passe jamais tout à fait, sans que l'on doive pour autant considérer que l'avenir serait tout entier dans le présent. C'est vraiment ces deux choses que Merleau-Ponty essaye de penser ensemble. La citation suivante le manifeste, je pense. Le temps est le modèle même de l'institution. Passivité-activité, il continue parce qu'il a été institué. Il fuse, il ne peut pas cesser d'être, il est total parce qu'il est partiel, il est un champ. Donc, deuxième point, cette institution est donc pensée par Merleau-Ponty comme un phénomène très général. C'est un phénomène qui a pour lui une dimension ontologique, dès lors qu'il désigne plus une caractéristique de toute réalité humaine qui existe dans le temps que des réalités sociales particulières, ou plutôt, pour être plus précisément, qui ne désigne ces réalités sociales particulières que parce qu'il désigne cette dimension ontologique propre à toute vie humaine. La variété des phénomènes que Merleau-Ponty traite dans son cours le prouve, puisqu'il va envisager successivement, je vous ai mis plus ou moins le plan du cours, dans un premier temps, l'institution personnelle et interpersonnelle, et par là même, il entend aussi bien l'institution des sentiments, la naissance d'un amour, et là il va étudier Proust, l'amour pour Albertine, etc., l'institution des œuvres, donc la création artistique, l'institution d'un savoir, la question cruciale de la vérité et du langage, qui sert en fait de pierre de touche hein, de sa philosophie sur le sujet, mais bon, ce serait l'objet en fait d'un autre exposé. Et dans un deuxième temps, l'institution historique, en tant qu'elle est universalisante et particularisante. Donc, comme ce dont il est question pendant ces deux jours, c'est surtout de l'institution sociale, historique, je pense, je voudrais insister ici sur l'application de la conception générale de l'institution merleau-pontienne à cette question. En effet, il a le grand intérêt à mes yeux d'indiquer explicitement sa position par rapport au sens, disons, le plus usuel de l'institution, qui est aussi celui que lui-même a employé dans ses travaux précédents. En fait, ce qui est très frappant par rapport à cet usage merleau-pontien de l'institution, c'est qu'il utilise ce terme d'institution dans ses travaux antérieurs, et on peut relever deux choses. D'une part, c'est l'entente politique usuelle qui domine, de manière assez comme ça, de sens commun, un sens, voilà. Mais par ailleurs, pour lui, l'institution est de toute façon un phénomène qui contre l'empirisme, dès lors que, par définition, pour lui, en quelque sorte, c'est évident, il est évident que l'institution n'est pas de l'ordre de la nature purement physique, etc. Donc il y a quand même cette base, et c'est de là que Merleau-Ponty vient, même si ensuite il va réinvestir ce concept pour en faire ce que je viens de vous présenter. Donc, comment se positionne-t-il par rapport donc, à ce sens politique plus particulier de l'institution ? Donc, je cite, « Sens apparemment clair, les corps de l'État, lois organiques, soumises à procédures spéciales de révision et les appareils qu'elles installent. Toutefois, critique, cela accentue, au sens psychanalytique, l'institution comme l'être sans esprit, ce qui mutile l'institution. L'institution n'est pas seulement ce qui a été fixé par contrat, mais cela plus fonctionnement. Institution vraie, de point, c'est le cadre effectif de la dynamique du système, officiel ou non. C'est souvent dans le contenu latent que se trouve le plus important, la raison de la Stiftung. Stiftung, on va y revenir, c'est le terme douceur. Exemple, l'idéalisme abstrait fait pour maintenir le pouvoir de bourgeoisie, ou en tout cas fait système avec le pouvoir de bourgeoisie. Et il précise en marge, pour préciser le sens du contenu latent, institution manifeste et latente, d'où mystification de l'institution, comme savoir, il faut qu'elle soit aussi ignorance, etc. Alors, cette formulation me semble intéressante par son caractère immédiatement problématique, à mes yeux. Elle a un grand intérêt, insister sur le fait que l'institution ne peut se réduire à des textes de loi si l'on en fait une lecture ou une interprétation restreinte. Il y aurait les textes de loi, les individus chargés de les appliquer, les bâtiments où ces applications ont lieu, d'une part, et le pouvoir qu'on leur prête, d'autre part. Comme si l'on pouvait penser ces textes, ces individus, ces bâtiments, indépendamment de ce pouvoir. Or, ce qui constitue une institution comme telle, c'est le pouvoir qui lui est inhérent et qui n'est pas quelque chose qui lui serait conféré de l'extérieur par des sujets qui seraient libres à son égard. De ce point de vue, il me semble que Merleau-Ponty a raison d'indiquer une forme de résistance ou d'irréductibilité de l'institution à la donation de sens souveraine du sujet. Et c'est cette résistance qu'il entend penser en évoquant cette forme d'opacité de l'institution qui serait dotée d'un contenu latent, irréductible à son sens manifeste. De ce point de vue, les sujets, les hommes, sont pris dans l'institution puisqu'ils ne la constituent. Et c'est bien ce phénomène qui vaut au concept merleau-pontien d'institution son extension à, selon ses termes, tous les phénomènes symboliques. C'est cela qu'il entend désigner par, en généralisant le concept d'institution. Je vais vous lire juste la fin de la citation. Donc, à partir de « comme la langue », les csix dernières lignes, Comme la langue est un système de signes qui n'ont de sens que relativement les uns aux autres et dont chacun se reconnaît à une certaine valeur d'emploi qui lui revient dans le tout de la langue, chaque institution est un système symbolique que le sujet s'incorpore comme style de fonctionnement, comme configuration globale, sans qu'il ait besoin de le concevoir. Le problème, selon moi, est que ce qui fait la richesse de la proposition merleau-pontienne me semble aussi être ce qui fait problème. Car dès lors que l'on confère à l'institution un contenu latent, qui correspond à un style de fonctionnement que le sujet incorpore. Dès lors que l'institution est une modalité de l'être au monde corporel, vital du sujet, comment est-il possible de penser un écart entre l'institution et les individus qui y ont affaire ? Dénoncer une forme d'autonomie pure des individus à l'égard des institutions qui supposerait que ces individus pourraient disposer d'une liberté de décision qui ne serait aucunement liée à leur vie institutionnelle, cela semble, je crois, indispensable pour dénoncer ce que Merleau-Ponty qualifie d'idéalisme et que l'on pourrait aussi désigner par le terme d'individualisme abstrait, etc. Mais la manière dont Merleau-Ponty entre-incorpore institution et sujet permet-il de concevoir une forme d'extériorité, même partielle, même relative, des institutions au sujet ? Cela paraît très nécessaire pour penser, d'une part, la possibilité d'une véritable oppression des sujets par les institutions. Sur ce point, on peut avoir le soupçon d'une forme d'irénisme merleau-pontien. Il s'en défend par ailleurs, mais je ne suis pas certaine que cela suffise. J'y reviendrai. Deuxième point, cette extériorité paraîtrait nécessaire, réciproquement, pour penser la possibilité d'un authentique renouvellement, d'un vrai changement des institutions sous l'impulsion des sujets historiques. Sur ce point également, on peut se demander si Merleau-Ponty n'est pas plus victime d'une forme d'hégélianisme que ce qu'il voudrait, ou plus précisément, qui n'est pas hégélien sans le vouloir et sans en assumer toutes les conséquences. Ce serait plutôt ça le problème, à vrai dire. C'est donc à ce problème que je vais consacrer le troisième et dernier temps de cet exposé. Après m'être exposé imprudemment à parler de Hegel. Donc, le tourbillon de l'institution ouverte, une institution trop miraculeuse pour être honnête. L'institution, donc, selon Merleau-Ponty, c'est, je cite, « l'intégration du passé à la signification nouvelle ». Or, de ce point de vue, il semble y avoir dans l'institution un pouvoir d'intégration infini, que rien ne semble pouvoir jamais véritablement sortir de sa course. De même que l'institution, c'est la réciproque logique, ne semble jamais pouvoir être véritablement nouvelle. Il y a là un aspect de l'institution que Merleau-Ponty assume totalement, je crois, et qu'il caractérise en usant d'une référence à Goethe et au terme de génie. Évidemment, ça élève le soupçon. Je cite, « Le sens est déposé, il n'est plus seulement en moi comme conscience, il n'est pas recréé ou... il n'est pas recréé ou constitué lors de la reprise, mais non comme objet au vestiaire, comme simple reste ou survivance, comme résidu. Il est déposé comme à continuer, à achever, sans que cette suite soit déterminée. » C'est là le passage qui m'intéresse. « L'institué changera, mais ce changement même est appelé par sa Stiftung. Goethe, le génie et productivité posthume, toute institution est en ce sens génie. » C'est formidable. De nombreuses formulations merleau-pontiennes vont dans ce sens. Je vais me concentrer sur celles qui se réfèrent au domaine historique, où l'enjeu est évidemment essentiel, pour nous, je pense, comme pour Merleau-Ponty, et cela apparaît dans de nombreux textes rédigés entre 1945 et 1955, sur Marx, sur Lukács, dans la polémique avec Sartre, etc. Dans le cours de 1954-1955, voici les formulations qu'on peut trouver. Les révolutions mêmes se feront par remise en question du champ défini par le passé, et donc réactivation. La révolution est donc réactivation. La révolution, dit-il encore, est retour aux sources. C'est encore un avenir par approfondissement du passé. On peut se féliciter d'une pensée qui refuse toute logique de la table rase ou de la révolution radicale, qui supposerait que nous pourrions nous extraire de notre temps. De fait, lorsqu'il écrit « c'est l'oubli qui serait fausse maturité », il semble réaliser une critique importante en son principe d'une forme d'idéalisme pour laquelle le sujet pourrait s'extraire miraculeusement de son temps et de ses institutions afin d'en fonder de nouvelles ex nihilo. Pour autant, une pensée où tout changement historique ne peut jamais être qu'une réactivation de ce qui précède paraît, je crois, manquer du sens de ce qu'est un événement en tant que s'y réalise un changement qui ne semblait pas exigé par ce qui précédait ou seulement pour un point de vue omniscient dont on peut penser qu'il serait imaginaire. Pourtant, pour Merleau-Ponty, il n'y a dans sa pensée de l'événement ni manque ni contradiction. Il est évidemment conscient de ce problème et il l'assume. Il prétend tout à fait penser et l'ancrage des sujets dans leur institution et leur liberté à leur égard, au prix d'un remaniement assumé de ces concepts de liberté et de sujet. Je cite un passage qui me paraît caractéristique de ce mouvement conceptuel merleau-pontien. C'est la troisième citation. « On est absolument libre et absolument préfiguré. Les deux, pour lui, tiennent ensemble et ne se contredisent pas. L'institution humaine, elle est intégration en chaîne, tourbillon où tout converge, auquel tout réussit, décongue d'une anticipation et d'une régression et instauration d'un vrai maintenant plein. » Ce qui m'intéresse, évidemment, c'est cette idée de l'institution humaine comme une intégration en chaîne, tourbillon où tout converge, auquel tout réussit. Pourtant, certes, nous sommes ancrés et libres, mais la justesse de cette double caractérisation implique-t-elle cette réconciliation? Cela signifie-t-il pour autant que, comme il l'écrit, à force, c'est la dernière citation, toute la contingence, même radicalement contingente, finit par être voulue? Il y a là un tourbillon dialectique qui empêche très clairement que l'on pense une véritable extériorité des sujets à l'égard de l'institution, ou plutôt, plus précisément, et c'est le point important, je crois, ça empêche de penser une extériorité qui ne soit pas de principe, et surtout, qui ne soit pas, de ce fait, toujours la même. En fait, bien sûr, il y a une extériorité, il le dit tout à fait, mais au fond, l'extériorité est de principe et donc toujours la même. En fait, ce rapport, il y a une différence, si on veut, entre le sujet et l'institution, et justement, il y en a une seule, et il n'y en a pas des différences. Ça manque de degrés, si on veut, selon moi. Alors bien sûr, cette conception a l'intérêt de penser l'institution comme essentiellement ouverte. En tant qu'elle est dynamisme vivant plus que cadre statique, elle apparaît riche de possibles non exprimés. C'est l'ouverture d'un champ, comme le dit Merleau-Ponty, plus qu'une rigidité textuelle. Là, il y a un acquis qui semble important pour moi. Mais cette ouverture est telle qu'elle ouvre en vérité sur l'infini et ne permet pas, je crois, de penser une authentique diversité des institutions, de manière synchronique ou diachronique d'ailleurs. En un sens, dans la pensée merleau-pontienne, il me semble qu'il y a une seule institution, et c'est le temps. L'épilogue du cours l'atteste, me semble-t-il, lorsque Merleau-Ponty y écrit « À travers le temps, les révolutions se rejoignent et les institutions se ressemblent. Toute révolution est la première, et toute institution, même révolutionnaire, est testée par les précédents historiques. Cela ne veut pas dire que tout est vain et qu'il n'y a rien à faire. La lutte est chaque fois autre, le minimum de justice exigible s'élève, et d'ailleurs, selon ces principes mêmes, le conservatisme est l'utopie, mais cela veut dire que la révolution qui recréerait l'histoire est à l'infini. » Donc, que manque-t-il donc, pour finir cet exposé, à Merleau-Ponty, selon moi, et comment interpréter cette conception de l'institution ? Pour le reprendre, je voudrais juste reprendre de nouveau la motivation du concept. Elle est anti-idéaliste, je vous l'ai dit, mais je voudrais insister sur un point. En fait, lorsqu'il s'oppose au concept de constitution, évidemment, Merleau-Ponty s'oppose à Husserl. Or, une spécialiste de Merleau-Ponty, Mariana Larrison, a consacré un article passionnant au concept merleau-pontien d'institution, qui s'intitule « Stiftung et pensée du social ». Bon. Elle y rappelle un fait bien connu, c'est-à-dire que l'institution est le terme que Merleau-Ponty emploie pour traduire le célèbre concept de Stiftung, mais l'auteur a l'intérêt, à mes yeux, de mettre en évidence à quel point ce geste conceptuel n'est pas évident, dès lors que cette traduction, je cite, « n'est pourtant ni la seule, pardon, je fais une coquille, ni la seule ni la plus précise, si l'on tient compte du sens qu'Husserl cherche à donner au concept. Husserl utilise le terme Stiftung pour se référer à une fondation, dans le sens de l'action d'engendrer quelque chose de nouveau, de fonder, former ou créer quelque chose, sens que nous trouvons dans les premières traductions, etc. » Autrement dit, c'est la dernière phrase, la notion de Stiftung recouvre précisément la problématique des actes qui donnent lieu à la genèse et à la réactivation de sens idéaux tant dans la sphère personnelle qu'interpersonnelle. Or, de ce point de vue, il me semble que Mariana Larrison s'attonne à très juste titre de l'extension que Merleau-Ponty attache au concept, du fait que, je cite, « il incorpore, avec tant de naturel, la problématique de la Stiftung à une philosophie de l'institution ». De ce geste, il est pourtant possible de rendre raison, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans la première partie de cet exposé. Et c'est ce que fait aussi Mariana Larrison en mettant en évidence de manière très intéressante le fait que ce rapprochement merleau-pontien a été aussi rendu possible du point de vue de la pensée de l'institution par sa fréquentation de penseurs de l'institution comme Maurice Auriou, Georges Gurvitch, bien sûr, Durkheim, Lévi-Strauss, Mauss, hein, dont il a commenté et lu assidûment les textes. Donc de ce point de vue-là, il y a un rapprochement possible entre la phénoménologie merleau-pontienne et cette pensée de l'institution. Mais il est clair que nous devons aussi marquer que ce que réalise Merleau-Ponty, c'est bien une phénoménologie de l'institution, au sens où Merleau-Ponty, contrairement à Gurvitch et à Lévi-Strauss, dont il s'inspire pour penser le social, je cite Mariana Larrison, ne renonce jamais à l'incarnation, l'incorporation et la personnification de l'œuvre collective à travers un acte individuel et subjectif. Il adopte, et c'est bien consubstantiel à sa méthode, la perspective de l'expérience vécue. Cela semble précieux dès lors qu'on reconnaît une pertinence à l'approche phénoménologique en tant qu'elle travaille avec le matériau même de nos existences, et en même temps, il est clair que par là même semble manquer, c'est peut-être pas par là même, c'est peut-être qu'il a été emporté par son mouvement, ce serait une question, il est clair que par là même, aucune véritable extériorité ne peut être pensée entre l'institution et l'expérience vécue, puisque les premières, ou plutôt, on ne peut pas penser vraiment aucune extériorité véritable entre telle ou telle institution et l'expérience vécue, puisque les premières, ces institutions, sont toujours pensées à partir de la première, à partir de l'expérience vécue. Et par là même, il me semble que l'on manque donc quelque chose. Ce que l'on manque, je crois, par là même, c'est une véritable normativité de l'institution, c'est-à-dire le fait qu'elle soit pour le sujet la source d'un devoir auquel il est soumis, devoir qui peut, ou non, ou plus ou moins, correspondre à une inclination du sujet, de telle sorte que par rapport aux différentes institutions possibles, il se sentira, j'ai presque fini, plus ou moins contraint ou plus ou moins protégé. En clair, le problème de la conception merleau-pontienne, selon moi, c'est qu'en restant à un niveau d'analyse phénoménologique et ontologique, elle critique peut-être une certaine conception idéaliste du sujet, mais elle néglige, d'une part, la différence entre le niveau personnel et le niveau collectif, qui est pensé comme son simple prolongement, et d'autre part, mais c'est lié, les différences entre les institutions. Différences qui sont pourtant tout l'enjeu des débats juridiques, politiques, constitutionnels, mais qui ne sont pas son objet, tout occupé qu'il est par sa critique de l'idéalisme. Cela apparaît dans l'avant-dernière citation que je vous ai donnée. Tout n'est pas vain, il n'est pas vain évidemment de vouloir changer les institutions, mais au fond, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte pour lui, c'est de dire toute la révolution sera toujours infinie. Au fond, ce qui compte pour lui, c'est vraiment la critique de l'idéalisme. Les critères de l'action, finalement, ne sont pas son problème. Certes, le social n'est pas une réalité en soi qui existerait indépendamment de tout regard humain. Certes, aucune institution n'est radicalement nouvelle, mais il semble qu'il existe des réformes institutionnelles qui sont des révolutions. En tout cas, il semble légitime d'essayer de donner un sens, même relatif, à cette distinction conceptuelle. Et de même, le social en tant que tel n'est pas réductible au point de vue du sujet sur lui. Ou plutôt, il me semble que le point de vue du sujet sur le social n'est précisément qu'un point de vue auquel le social ne se réduit pas. En d'autres termes, ce n'est pas parce que l'institution ou le social ne sont pas des réalités en soi indépendantes de tout regard humain que ce ne sont pas des réalités irréductibles au sujet ou à une addition de sujet. Le négliger aboutit à négliger les phénomènes que j'ai indiqués et je crois à une forme d'irénisme malgré soi. Ce serait peut-être une forme de leçon un peu négative, un peu critique de la lecture merleau-pontienne de l'institution. Alors je vais m'arrêter là. En fait, je voulais juste indiquer un point. En fait, il me semble qu'en réalisant cette critique, en fait, je ne fais que retrouver une critique qui en fait, a déjà été réalisée de Merleau-Ponty, mais par Vincent Descombes, en fait, dans Les institutions du sens, en particulier dans le chapitre 19, où Vincent Descombes en fait, étudie la manière dont Merleau-Ponty en fait, traite, non pas véritablement d'un esprit objectif, mais d'un esprit objectivé, et manque précisément cette normativité des faits. Mais bon, c'était juste une remarque pour dire que là, je pense qu'il y a une vraie continuité à tracer. Je vous remercie de votre attention. Merci.